Bonjour, donc Patrick Chryssosiak, nous sommes le 22 février 2023. Je suis à Paris, alors peut-être que vous êtes au bout du monde, et tant mieux, c'est la magie de l'audio, de ces réseaux sociaux, dont on peut les utiliser à bon escient. Je vais vous parler aujourd'hui pour ce 20e podcast, parce qu'il m'inspire celui-là depuis quelques semaines, avec des exemples que j'ai toujours en tête. Là, alors quand je parle d'exemples, c'est des exemples des gens que j'accompagne, à qui je dis merci pour les accompagnements que je peux avoir grâce à eux. Et finalement, je m'aperçois du leadership. Il y a derrière la notion de leadership, qu'est-ce qu'un leader? Énormément de choses partout. Donc même moi, j'ai acheté, lu, me suis renseigné, j'ai fait des formations au leadership, voilà, pour comprendre ce que c'est finalement assumer son leadership, être un leadership. Alors leader, c'est déjà mener en anglais. Et bien voilà, quand je pense à ça, leadership, ou donc des personnes qui sont en poste pour être un leader, qui demandent un coaching parce qu'ils ont besoin de parler. Hein. Les leaders, sont des meneurs et ils ont besoin de vider leur sac aussi de temps en temps, d'essayer de prendre de la hauteur de vue. C'est ça un coaching. C'est aussi un lieu de détente. Hein. C'est un lieu où ils peuvent se confier magiquement. Donc là-dessus, je ne vais pas revenir sur des principes que vous pourriez découvrir un peu partout. Alors je cite Vincent Lénard, chez qui j'ai eu la chance d'être formé il y a maintenant plus de 15 ans. J'en cite d'autres. Le milieu du coaching, ça a fleuri, donc il y a du choix. Mais en tous les cas, cette notion de leadership, il y a une colonne vertébrale pour un leader, il doit faire des choix, il doit déléguer, il doit monter en compétence les uns les autres. C'est beau, hein? C'est beau. Alors, soit on l'est au naturel, et on a, je sais pas, une centaine d'amis autour de soi, ce qui fait que vous, comme vous voyez, comme dans les rêves américains des années 1930, voilà, on a appris quitter l'industriel reconnu, bah, s'est lancé avec rien, en plus c'était un illettré. C'est toujours un peu la cour des miracles. J'ai lu les bouquins de Napoléon Hill, ils sont très intéressants. Alors Napoléon comme Napoléon, c'est son prénom, et Hill comme une colline. C'est des bouquins intéressants sur pourquoi j'ai du succès. Et ben, systématiquement, on va voir que c'est dans la peau de la personne qui a du succès, autrement dit, c'est son comportement qui attire les gens. C'est en lui. C'est en lui. Voilà, moi je vois maintenant en tant que coach, ben, je m'y fais. Hein. Il y a des gens qui ont fait des écoles, alors les grandes écoles de commerce, les grandes écoles d'ingénieurs, qui forment des gens intéressants à rencontrer, qui assument d'énormes responsabilités. Et ben moi, je les admire parce qu'il faut le faire. Et quand on est PDG, président, on dit aujourd'hui DG, CIO, ou même responsabilité de la finance d'un gros groupe, je peux vous dire qu'il faut se lever tôt. Hein, donc, et ils se lèvent tôt. Donc, il n'y a pas à dire, il y a du leadership derrière ça. Maintenant, pourquoi il y a quand même des gens qui frappent à la porte des coachs? Vous voyez, c'est de ce que je vis depuis une dizaine d'années, où j'accompagne des profils un peu plus âgés, si je peux dire. On n'est pas un jeune leader comme ça. Donc oui, les quadras et quinquas qui viennent frapper, qui disent, voilà, frapper à la porte, voilà, je veux... Il se passe quelque chose. Alors c'est souvent pas très clair, c'est pas vraiment défini, parce que ce sont des gens inspirés. Ils ont monté, ils ont accompagné une croissance d'une entreprise. Alors ça peut être une croissance par acquisition financière, mais n'empêche qu'il faut de la capacité à décider. Donc je suis toujours très étonné quand ils viennent frapper à la porte en disant « Mais qu'est-ce qui vous amène ici ?» Je vais vous le dire, c'est le relationnel. Il y a quelque chose au niveau du leadership où j'ai envie de vous parler de deux points primordiaux. Vous pouvez faire toutes les écoles du monde. Vous pouvez aller à l'INSEAD, c'est bien. Hein. Il y a 18 mois ou 15 mois avec des coachs du monde entier. Ils vont vous passer au scanner de vos qualités et défauts. Vous allez apprendre à travailler avec les autres en réseau. C'est très bien. Maintenant, moi, je vois des gens qui sont sortis de ce type d'école. Je vois des gens qui ont fait des MBA, Amerloc, Américain, ce que vous voulez, hein, qui sont partis à Singapour, qui sont partis partout. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose au niveau de cette notion naturelle d'être un leader, donc un meneur, hein, un meneur d'hommes, homme avec un grand H, c'est pas forcément donné à tout le monde, quoi. Je vois que les demandes que j'ai sont relatives à ce premier point que j'appelle être influencé. Je le redis, donc vous êtes, imaginons que vous êtes un leader, un DRH, vous êtes un leader, un DG, vous êtes un leader dans votre activité. Vous êtes sur 7, 8 countries en Europe, tout se passe bien et en fait, il y a quelque chose. Vous courez, vous avez une pression. Il y a quelque chose en vous qui vous dit, je ne sais pas, il y a un truc. Alors ce truc, ça peut être le fait de ressentir finalement que vous faites votre job. De temps en temps, on y va. Et puis quand on n'y va pas, ça y est, on a acheté la filiale Intel. Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mes journées? Ben, en fait, je m'aperçois, et c'est là où c'est un processus de développement intéressant, ce premier point dont je vous ai parlé, est-ce que je suis influencé par autrui ou est-ce que j'ai une capacité à les influencer? On peut en parler des heures. Vous allez me dire, non, Patrick, je comprends pas. J'influence, puisque c'est moi qui décide. On me dit même que je suis trop dur. Donc, mon DRH m'a dit, va te faire coacher Jean. Je suis devant vous. Là, c'est un autre contexte. Imaginons que vous n'êtes pas effectivement la personne dite dure ou colérique. Donc, il y a du leadership et on vous voit comme un leader. On vous voit même sur les réseaux sociaux. Ben, tant mieux. Il se trouve que depuis 7 ans, je remonte à 7 ans, en arrière, j'ai été contacté par des entreprises. Vous avez un président qui vous accorde un quart d'heure pour vous dire ce qu'il attendrait du coaching de son DG. Vous avez des personnes haut placées qui vous disent, voilà, ce qu'il faudrait que cette personne développe, c'est s'imposer plus, s'affirmer plus. Est-ce que c'est ça le premier point dont je vous parle? Le premier point, c'est est-ce que j'influence au point de penser, par exemple, à je pense à ma boîte, à la boîte. On a besoin d'unifier nos savoirs dans cette entreprise parce qu'il y a parfois des turnovers un peu forts. On perd des ressources. On est numéro 3, on aimerait être numéro 1. Il y a des gens qui ne restent pas. Pourquoi ils ne restent pas? Parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de peut-être ce qu'on devrait faire, à savoir les processus, l'alignement des points de vue sur le système, sur l'organisation. Et certaines personnes qui sont des leaders me disent toujours, on court dans cette entreprise. Et mon impression, c'est de toujours avoir devant moi des gens avec qui on parle. Donc, c'est mes adjoints sur les pays, c'est des dirigeants de filiales. J'ai l'impression que quand ils m'appellent, finalement, je suis en mode homme-solution. On discute, c'est passionnant, même avec des gens du corporate, par exemple. Donc, je pense à une personne avec laquelle j'ai commencé. Je pense à d'autres personnes l'an dernier. Je pense aussi, il y a depuis 7 ans, ce type de configuration de gens qui ont fait une école superbe, qui en sortent à 45 ans, donc qui ont effectivement acquis quelque chose, une forme d'affirmation. Par contre, moi, je les trouve toujours au service des autres. Autrement dit, si je suis le meneur de l'entreprise, le leader, hein, en français, c'est meneur, est-ce que c'est moi qui dis à mes 8, 10 membres de comité de direction, voilà ce qu'on va faire, voilà ce que je veux obtenir, mettez-moi à plat tous les systèmes parce qu'on a toujours des processus un peu différents de ci, de là, la filiale qu'on a achetée il y a 3 ans n'est toujours pas tout à fait intégrée, mais pourquoi? Le leader, il est leader parce qu'il est en train d'être influencé par des gens qui vivent leur vie en mode pompier et qui, quand ils vont voir leur leader, eh bien, lui disent, voilà, on a un problème client, on a un problème ici. Et c'est des discussions sans fin sur comment le régler. Et ça se règle, c'est des hommes-solutions. Vous voyez ça, le premier point du leadership, je le dis, hein, ça ne doit pas être là. Parce que leader, c'est mener. Bien, je vais vous dire quelque chose, ce que j'ai dit à des personnes que j'accompagne, c'est toi qui te fais leader par les gens qui sont en dessous de toi. Qui est donc le leader? C'est eux qui viennent te dire, au secours, il y a un feu dans telle filiale, on a une difficulté, qui viennent te saisir par l'émotionnel et tu y vas. Et en fait, finalement, qui est le leader entre les deux? Parce que si toi, tu fais jamais finalement ce que tu as prévu, à savoir établir à 2 ans le plan d'action qui te tient à cœur, pas le plan d'action financier, mais le fait dans les filiales d'organiser un mode commun afin qu'il y ait vraiment des procédés, des processus qui soient communs, si c'est toujours pas fait, si effectivement il y a du turnover, s'il y a des coups de grisou, des gens en colère, la colère c'est une émotion, et l'émotion elle cache un besoin non pourvu, non réalisé, non répondu. Eh bien, le rôle du leader, ça va être de garder le cap et de renvoyer dans ses basques, je le dis ici, hein, on peut en discuter, ces opérationnels terrain qui ont de fortes responsabilités et puis qui saisissent ce leader pour lui dire « on a un problème, j'ai pas eu le temps de m'en occuper ». Eh bien non, c'est de le confronter sur « fais-toi coacher ». Peut-être que si tu faisais travailler tes équipes différemment localement, si vous aviez un mode de travail commun, collectif, avec une réunion qui commence à un début d'heure, qui termine à une fin d'heure, avec des engagements qui sont pris en main par les uns et les autres, non pas par toi. Si toi, tu faisais ça dans tes filiales, tu viendrais pas me voir ici, au siège central, avec des histoires compliquées, où moi, finalement, je me situe comme quelqu'un qui doit te répondre, parce que peut-être, dans le fond, si je ne te réponds pas, j'aurai l'impression que tu ne me reconnais pas comme ton leader. Et ce que je veux dire là, ça met la personne finalement qui lead en position de servitude par rapport à des personnes. Et ces personnes-là autour sont capables aussi de penser que si lui ou elle ne répond pas à mon besoin, peut-être que je ne vais pas la reconnaître comme mon leader. Bien, c'est pas ça, vraiment. Je vous le dis parce qu'en quelques rendez-vous, comment on peut dire ça, l'équilibre, vous voyez, l'aiguille, elle se remet au milieu là, du compteur, et je peux vous dire qu'il y a des actions qui sont menées, et cette fois-ci des discussions acharnées qui sont, même si elles sont déplaisantes, qui sont nécessaires pour renforcer le pouvoir du leader en place. C'est lui qui décide, mais ça se fait en bienveillance. Il y a de l'empathie là-dedans, vous voyez, il n'y a pas de colère pour dire « vous avez intérêt à changer localement, vous ne savez pas gérer vos troupes ». Non, il ne s'agit pas de dire ça, il s'agit de renvoyer celui qui vient toujours vous saisir le vendredi soir pour les mêmes histoires. Ah, dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu es toujours en stress? Qu'est-ce qui fait que tu viens toujours me voir au dernier moment? C'est notre activité qui est last minute. Ah, pardon, j'avais pas compris qu'on avait une activité client last minute. Je suis un leader, mais je l'ai pas compris. Vous voyez ça? Non, c'est pas OK. C'est de le renvoyer et de le développer. Le rôle du leader, on dit, c'est l'empowerment. Vous voyez? Ben, c'est quoi? Faire grandir les gens, sinon leur dire, écoutez, ma direction d'entreprise, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on n'y va jamais? Eh bien, ce qui se passe dans le comité de direction, c'est qu'on est toujours en train de gérer le problème d'actualité, le ceci, le cela, et on n'avance pas sur des réflexions plus stratégiques. Vous voyez, c'est ça, d'amener 7-8 filiales à avoir un processus commun, à finalement embarquer les gens là-dessus, et comment, en leur disant... Peut-être que toi, si tu te développais aussi localement dans ton pays, en ayant une communication différente, une façon d'embarquer les gens différemment, de les associer, de les faire travailler ensemble, de développer une forme de circularité entre eux, c'est ça que j'attends de toi dans ta filiale, pour que quand tu viennes me voir, je ne sois pas saisi comme l'homme ou la femme dernière minute. Vous voyez, et ça m'a beaucoup marqué dans cette notion de lead avec un grand L. Est-ce que c'est moi qui lead? Ou est-ce que je me fais l'idée et en même temps je joue avec ça parce que en étant à leur service, ils me reconnaissent comme celui ou celle qui a le titre. Je dirais ça cache peut-être un symptôme de l'imposteur. C'est pas l'objet de ce podcast-là, mais c'est vraiment mon étonnement par rapport à ça. Je pense que des gens ont besoin d'entendre ce côté. Est-ce que c'est moi qui me fais l'idée par des gens qui sont donc dans la hiérarchie inférieure à moi, avec qui j'établis des liens positifs, bien entendu. Mais ces gens-là ont-ils plus une influence sur moi à faire que mon projet ou mes idées ne se développent vraiment pas? Soit comme réponse, si. Je suis quand même un leader, c'est moi qui ai lancé ça, c'est moi qui ai lancé. Mais lancer n'est pas gérer, vous voyez. Il faut peut-être passer du stade de « je suis un leader » en développant de nouvelles idées à « je suis un leader parce que je sais les développer, mais aussi je sais les mettre en place et je sais les gérer derrière, en développant les gens qui s'en occupent. Ça peut résonner chez des managers en parlant de délégation. Hein. Est-ce que je fais à leur place ou je continue ou je les développe pour qu'ils fassent eux-mêmes, voyez? Mais là, je reste sur la notion de leadership. Il y a une deuxième histoire, un deuxième point pour moi dans le leadership. Là, je vois des personnes leaders qui finalement, quand on reprend cette notion de meneur, pourquoi finalement des gens arrivent à captiver l'attention, à captiver l'intérêt d'autrui? Il y a quelque chose de magique dans la relation, voyez. Je me souviens d'un président de société dont je ne vais pas dire qui, mais qui me dit « Oui, ok, dans le comité de direction, il y a des fortes personnalités. Mais vous savez, dans la vie, je réussis à regarder uniquement la force de caractère de chacun. Et ce que l'on me dit sur les uns et les autres, qui est pas bien sur l'un ou sur l'autre, je ne l'ai jamais regardé. Finalement, je regarde uniquement les qualités. Je galvanise chacun parce qu'on est tous avec des qualités et des défauts. Et vous voyez, ça, c'est un président de société qui a réussi à amener la société quelque part, très loin, qui l'a deux fois ou trois fois, je crois, tiré de mauvaises passes en 30 ans. qui a cédé son bâton de maréchal, on va dire ça comme ça, à quelqu'un d'autre depuis 5-6 ans. Et en fin de compte, lui, il me disait, c'est étonnant parce que quand je vois les gens qui sont inquiets par tel collaborateur, qui sont inquiétés par un autre membre du CODIR, qui se mettent en compétition, en concurrence, qui sont en train de se regarder en négatif les uns les autres, quelque part, moi, j'ai jamais fait ça. Même quand on vient me voir en me disant, un tel a encore fait des siennes, quelque part, je réponds à la personne, en quoi ça te dérange? Et toi, est-ce que tu n'as pas des défauts non plus? C'est pas ce qui m'intéresse chez toi. Ce qui m'intéresse chez toi, c'est de croire en toi. Je crois en toi, tout comme je crois en celui que tu es en train d'incriminer. Je sais qu'il a plein de défauts, mais il a une qualité énorme. C'est lui quand même qui a réussi à développer ça. On me dit qu'il l'a fait à la force du poignet. Mais bon, je lui ai parlé, il a mis de l'eau dans son vin. Il n'empêche que vous êtes tous caractériels et je le suis aussi. Vous voyez, cette notion de leader, finalement, c'est le point numéro 2. Pour moi, ça, c'est la qualité de la relation. Ce sont des gens qui sont capables de galvaniser les gens, de ne pas se préoccuper par ce qui se passe en bas. Les causeries, les jacasseries, les gossips des uns et des autres, parce que je peux vous dire qu'il y en a dans les corporates des gossips. Hein. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un gossip, c'est les racontars. Voilà. Je vois des leaders, je ne sais pas comment ils font. Si, ils vont jouer au golf. Il y en a un qui m'a dit, mais comment je fais pour me stabiliser alors que tout le monde vient me voir en me disant, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il n'a pas eu son résultat ce mois-ci, son équipe, c'est pas OK. Eh bien, c'est simple, je vais me détendre. Vous voyez, c'est cette capacité d'abstraction qu'on. J'ai vu peut-être en 7 ans, une huitaine de personnes comme ça que je n'ai pas coachées. Hein. Ce n'est pas eux qui ont besoin de coach. À la rigueur, je me ferais coacher par eux. C'est que eux me confiaient des personnes. Mais c'était toujours, c'est quelqu'un en qui j'ai foi. On me dit qu'il a plein de défauts, le DRH ou la DRH veut s'en séparer. Moi, non. Si on regarde les gens pour pas leur qualité et pas par leurs défauts, on leur donne de la croyance qu'ils sont bien, on leur donne de l'énergie. C'est une histoire de foi personnelle en lui. Ouais, c'est toujours ce discours que j'ai entendu. Eh bien, ça marche. Et ce qui fait que c'est en fait le leader, il est en petit 1, donc. Est-ce que vous êtes influencé par les autres et c'est comme ça que vous avez fait votre place et que vous continuez à être ce leader qui répond aux besoins des autres en mode pompier? Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Et le deuxième axe, c'est de regarder l'autre dans la qualité du lien. Et j'ai des gens, étonnamment, qui me disent, moi, je conçois ma place de leader par le fait que je donne du travail à mon directeur financier. Je lui donne et je le challenge. Et s'il se plante, s'il se ramasse, eh ben, j'en changerai. On n'est pas là-dedans dans le leadership, vous voyez. Il n'y a pas la qualité de la relation. Le leader, j'ai toujours observé que finalement, on peut dire, excusez-moi du mot, mais pourquoi je m'excuse d'ailleurs? J'assume, ils aiment les gens, quoi. Ils aiment, ils voient les gens. Même les gens compliqués, à rigueur, les gens en colère, ce que j'en connais dans des codiers, hein, ils ont leur place parce que c'est des gens forts comme ça, de caractère, eh bien, ça les fait rire et puis ils sont capables de les galvaniser sur une qualité humaine. Et de convaincre les autres que finalement on l'est aussi soi-même, plein de qualités, défauts, et qu'avant de juger l'autre, on se regarde soi-même. Mais c'est même pas ça qu'ils disent. Ils disent, tu sais, tu es en train de me parler on va l'appeler Nicolas, qui a plein de défauts, mais toi aussi tu en as des défauts. Mais c'est pas ce qui m'intéresse chez toi. Ce qui m'intéresse chez toi, c'est ce que tu as réussi à nous apporter. Continue comme ça, moi, j'ai foi en toi. Les gens te détestent, les gens te disent que tu n'es pas OK. Moi, j'ai la foi dans cette énorme qualité. Il y a un lien qui est instauré. On ne donne pas que du travail à quelqu'un à faire. On n'est pas là pour juste exploiter ses compétences. On est là pour entretenir et créer un lien avec une personne où on lui dit tout le bien de ce qu'on pense réellement d'elle, qui fait que même si cette personne est dure, eh bien, on envoie quelque part son essence personnelle, sa magie personnelle. Et ça, je trouve qu'à développer, vous allez me dire, mais c'est surhumain. Non, j'ai quelqu'un dans mon bureau en ce moment, enfin je pense à lui en particulier, qui me dit, mais c'est vrai que en tant que leader, on a travaillé le premier point du leadership, entre l'influence auquel il répondait des autres, ou alors son chemin à lui, et il a pris la voie. Mais vous voyez, dans les derniers rendez-vous, ça concerne plutôt ce côté, t'as raison Patrick, je suis quand même assez pot de vache, je suis assez challenging avec les gens qui donnent du boulot. J'estime que s'ils sont dans ce comité, ils sont là parce qu'ils sont compétents, ils ont tout. Mais c'est vrai que je les attends un peu au tournant. Si le travail n'est pas fait, c'est un plaisir peut-être pour moi, m'a-t-il dit, d'aller un peu leur tirer les oreilles, voyez? Est-ce que c'est ça, les intentions de développement des potentiels des individus? Est-ce que ça s'appelle galvaniser les gens que de se dire, j'y file de boulot, mais je l'attends en tournant. Vous vous rendez compte ce qu'on provoque dans le cerveau? Le cerveau, en fait, ça s'appelle une croyance archaïque. Donc le cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est chercher les confirmations de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes ce type de leader, vous êtes en train de vous confirmer à vous-même qu'il vaut mieux s'entourer de gens qui ont peut-être des difficultés que vous attendez au tournant parce que vous aimez attendre les gens au tournant. Mais c'est pas comme ça qu'on développe un collectif. Comprenez ce que je veux dire? C'est pas les intentions de dire je challenge les gens, s'ils n'y arrivent pas, eh bien ça prouvera que j'ai raison. Est-ce qu'on peut penser l'inverse? Est-ce qu'on peut penser je sais que cette personne est excellente, je sais que cette personne y arrive. Et je crois réellement dans cette capacité qu'elle a à se développer. Et si cette personne est chahuteuse, perturbante, et je lui parle vrai, je vais lui dire, mais je vais toujours lui dire, moi, je crois en toi. Voyez? Et non pas, je m'attendais à ce que le travail t'y arrive pas, et quelque part, ça me satisfait. C'est un peu aller chercher des choses dans l'inconscient qui sont enfouies sur une forme de projection de dévalorisation de l'autre pour maintenir son statut. Voilà. Donc il y a une colonne vertébrale identitaire d'un leader qui aura de toute façon des transferts et des miroirs autour de lui sur ce que lui projette sur le monde. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'un leader, donc pour le deuxième point, projette sur les autres des intentions galvanisantes, positives? Finalement, c'est ça. Sur le champ de bataille, est-ce que ce sont des gens qui ont été chercher les problèmes des uns et des autres? Shakespeare en parle dans Henri V. Un livre qu'on m'avait conseillé il y a une vingtaine d'années, où il parlait de la bataille d'Azincourt. Vous voyez, donc on n'y était pas, on peut dire ce qu'on veut. Il n'empêche que Shakespeare a repris des parties dans Henri V sur ça avec le roi de France, le roi d'Angleterre. L'un galvanisait ses troupes, tous ensemble réunis sous une tente. Le roi de France, lui, il les recevait individuellement. Sans doute qu'il avait peut-être pas le courage de les galvaniser tous ensemble ou de leur dire la même chose qu'il disait à tous. Vous voyez, enfin. Donc on avait un roi plutôt capable de parler à tout le monde et je me souviens de ce livre et un roi qui lui recevait chacun individuellement pour peut-être faire des promesses individuelles sans lier les uns avec les autres. Vous voyez, c'est ce mode de management où je te reçois dans mon bureau, mais en équipe, on ne se dit rien. Et l'état d'esprit, je trouve, de certains leaders a gagné en développant ces deux points. Réfléchissez à ça. Est-ce que vraiment, hein, authentiquement, enfin, il ne s'agit pas de se flageller, il s'agit de se dire, je reconnais au poste où je suis que finalement, je suis plus en réponse aux uns et aux autres que en réponse à quelque chose qui vise à développer des systèmes et une organisation qui permettrait de gagner en efficacité et donc en argent. Et le deuxième point, est-ce que dans mes relations, je suis plutôt du genre à rentrer dans des jeux psychologiques de conflits, de tensions, je me fais happer par ça et j'ai une notion de méfiance, ou est-ce que je dépasse ça pour aller galvaniser les gens à qui je donne du travail et je suis pas en train de me dire bah, s'il l'a pas fait, c'est qu'il est pas bon, quoi. Vous voyez, est-ce que je suis sec dans mon jugement sur les autres, ou est-ce que je fais fi de ça et je me dis, il n'a pas réussi, c'est pas grave, je crois en lui, il a réussi par le passé à faire quelque chose, et je vais continuer à lui parler, et en étant sincère avec lui, peut-être en lui disant que je suis déçu par un point, mais, je continue, moi, à croire en lui. Et peut-être que la réponse, peut-être justement, bah écoute, en ce moment dans ma vie, c'est pas facile, je t'avoue qu'à la maison, c'est pas ça. Ça me prend un peu d'énergie. Ou physiquement, je suis fatigué. Eh bien, il vaut mieux une réponse de ce type-là, vous voyez, que de se dire, je donne du travail, et s'il ne l'a pas fait, alors je décide qu'il n'est pas bon. Après des années de bons et loyaux services? Point d'interrogation. Donc, c'est ces deux points que je voulais vous dire. N'y voyez pas un ton péremptoire, c'est vraiment un ton de conviction personnelle qui s'est fait au fur et à mesure, hein, de, on va dire, 7 années à accompagner. Donc ces leaders, je vois vraiment ces deux points, parce que qu'est-ce que vous voulez apporter à des leaders qui sont déjà en place? Ont-ils besoin de coach? Vincent Léonard me dirait sans aucun doute que oui, ils ont besoin de parler. Et vous voyez, il y a une subtilité de positionnement. C'est est-ce que je prends toute ma place? Est-ce que je l'affirme comme ça sur ces deux points? Merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui ont été jusqu'au bout, bien, je vous félicite, bravo. On peut ne pas être d'accord avec ce que je vous dis. Si vous avez toutefois entendu des légers ronflements, eh bien c'est que je suis en télétravail ce matin et je garde ma petite chienne à la maison qui s'est endormie à côté de moi. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée où que vous soyez. Au revoir.